question, c'est d'un côté, je comprends qu'il faut craindre et aimer Dieu. Et d'un autre côté, c'est un peu difficile à comprendre parce que aimer, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui doit venir de soi et qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Qu'on nous dise peut-être connais-le et tu l'aimeras, ça sera déjà un peu, je comprendrai un peu mieux. Mais là, c'est un, quasiment un ordre pour aimer Dieu. Et de l'autre côté, l'ordre de craindre aussi, qui est un peu plus compréhensif, c'est logique que ce soit un ordre. Mais d'un autre côté, est-ce que ça veut dire uniquement craindre les sanctions de Dieu? Est-ce que craindre les réprimands? J'ai un peu du mal aussi à croire que c'est que ça, parce qu'on sait que Dieu est puissant, très fort, qu'il est le maître du monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit trembler sans arrêt parce qu'on a peur qu'il va nous donner la solution qu'on mérite?
Ok, alors commençons par le début de la question, c'est donc l'amour. L'amour, comment provoquer de l'amour? La mitzvah est d'aimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, pas seulement aimer, mais de tout ton âme, tout ton pouvoir, de tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le guerre, le converti. Ordonne-moi de respecter les commandements de Dieu, de respecter mon prochain, de respecter le converti. Ordonne-moi de lui donner la tzedaka au converti. Ordonne-moi des choses que je maîtrise dans le domaine des actes. Ça, je veux bien, parce que je maîtrise les actes. Mais comment tu veux m'ordonner maintenant un sentiment? Aimer. C'est un beau sentiment, mais c'est pas... Il y a quelque part quelque chose qui nous échappe ici. Aimer son prochain, c'est un grand problème aujourd'hui. Son prochain, c'est qui? C'est tout le monde, mais plus il est proche, plus il faut l'aimer. Donc il y a un devoir aussi d'aimer ses proches, sa femme. Combien de maris un beau jour se lèvent, ou de femmes se lèvent un beau jour et disent « j'aime plus mon conjoint ». Alors, si le religieux, il est mal barré, tu aimeras. Il n'arrive pas. Tu l'aimeras. Comment Dieu peut ordonner d'aimer? Alors, il y a une grande erreur dans le monde occidental. Pardon?
France.
Non, c'est vrai que c'est français aussi. J'en ai parlé déjà ici aussi, même sur Internet. J'en ai parlé au nom de Jean-Jacques Rousseau. D'abord, Jean-Jacques Rousseau, c'était même un Suisse, figure-toi, français, mais il a vécu beaucoup en Suisse, qui dit la chose suivante, que l'être humain naît, N-A-I-T, la naissance, pur, et c'est la société qui va le pervertir. T'as fait ton bac dernièrement, je vois. Ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend ce qui est naturel. Ce qui est pur n'a pas été touché par la main de l'homme de la société est bien. Le monde, la nature est bonne. La nature est pure, la nature elle est belle. Et quand l'homme vient avec ses artifices, d'accord, l'homme vient avec ses outils artificiels, il va commencer à limiter, à arranger. Il peut faire comme beaucoup moins bien que la nature. Donc, il gâche tout. Donc, nous sommes tous en recherche, nous voulons le bien, et nous recherchons le bien, de la nature spontanée, naturelle, spontanée, ça vient du cœur. C'est beau, c'est authentique, authentiquement, voilà. C'est exactement tout le contraire dans la Torah. Tout le contraire. En Occident, naturel égale bien. Tout est naturel. Aujourd'hui, il y a un argument de vente, c'est naturel. Savon, naturel. Shampoing, naturel. Je sais pas moi, n'importe quel poivre naturel, steak naturel, poisson naturel. Manger naturel, ça coûte 5 fois plus que manger normal, d'accord? Je suis pas contre. Mais il y a un argument de vente ici. Parce que ça sous-tend justement tout ce système de pensée qui dit que lorsque tu es naturel, c'est spontané, pur. Ça n'a pas été touché, c'est tel que l'a voulu le Créateur, tel que voulait la nature, la belle nature. Je vais être un peu dur, mais c'est poussé à l'extrême, c'est la pensée de Hitler. Hitler a dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre la nature. La nature, elle marche comme il faut depuis des millénaires. Dans la nature, tu as les forts, tu as les faibles. Les forts tiennent, les faibles disparaissent. Les faibles sont vaincus par les forts. Donc moi, Hitler, je veux dire maintenant qu'on aura une race qui va être plus forte, aryenne, et tous les autres, on élimine. Parce que nous sommes pour la grandeur de la nature, la force de la nature. Il y avait une notion génétique, dit Mutter Erde, la mère terre. La terre, c'est notre mère, nous, on pousse de la terre naturellement. Et tout ce qui est contraire artificiel, il va dire autre part, Hitler, les juifs ont... La phrase, je sais par cœur, je vous le dis depuis le début. Oui, nous sommes des barbares, nous en sommes fiers. Je délivre les mains, je délivre l'homme des mains de l'esprit, de ces tourments corrompus et avilissants qu'on appelle conscience morale. On veut être barbare. Moi, je fais ce qui me plaît. Ça vient, c'est spontané. C'est tout ce qui est spontané est bien. Je suis fier de l'être. Je délivre l'homme des liens de l'esprit, l'esprit qui va gérer ce qui est naturel, on ne veut pas, de ces tourments corrompus. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Quelqu'un, il a vu la femme de son meilleur copain et il a fait l'inverse avec elle. Après, il est corrompu de tourments. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je dois faire ça à mon meilleur copain? Mais non, mon vieux, c'est bon, c'est la nature, regarde la nature. Pourquoi pas? Et il continue, car le judaïsme a imposé à l'homme deux mutilations. Celle de la Brit Mila, mutilation du corps, et celle de l'âme par la conscience morale qui n'est rien d'autre qu'une invention juive. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, en allemand, messieurs. La conscience juive est une, la conscience morale est une invention juive. C'est inventé. Il y a que des juifs qui ont un truc pareil. T'as la nature. T'as comme tout fonctionne. Naturellement, purement, comme il faut. Quand tu viens avec ta conscience, tu dis non, il faut faire comme si. Arrêtez. Arrêtez le courant naturel. C'est anti-naturel. Donc anti-bien. Il a raison, Adolphe. Nous sommes complètement anti-naturels. Ce que je dis est extrêmement peu populaire. On est comme ça. Toute la nature, tu vas être là, noué. Oh là là, c'est très.
Quand il dit c'est une invention.
C'est très pas médiatique.
Il a pas raison. S'il dit c'est une invention, il a pas
raison. Il a raison. Il a raison.
C'est pas une invention. C'est une réalité. Il y a la conscience.
Naturellement, non.
Vérité, c'est pas
naturellement, non. C'est une invention. Les juifs ont. Dieu leur a dit ça. Et les juifs viennent et disent maintenant, sache, la nature, maintenant il faut la changer. Par rapport. Mais pour quelqu'un qui vit dans la nature, naturellement. C'est une chose qui c'est merhouda, c'est une chose qui est nouvelle, c'est une chose qui. Donc ce que je dis est extrêmement peu médiatique. Parce que personne, au contraire, on a envie de sentir. Je laisse aller mes courants naturels, beaux, l'amour pur que j'ai pour toi, ma chérie, d'accord? Ça sent le. Ah, t'as tout. Quoi, alors tu m'aimes comme un robot? Tu m'aimes comme un robot? La Torah est. La Torah a ordonné d'aimer sa femme. Alors toi, tu m'aimes. Ah, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas la Torah, je veux toi. Naturellement que tu m'aimes. Nous, on dit tout le contraire. Alors comment ça fonctionne? La nature, elle est animale. Même la nature qui est belle, elle est changeante. Le sentiment, il provient de l'imagination. Et n'importe quelle petite vague, n'importe quel peu changement de courant du vent peut changer mon imagination. Aujourd'hui, j'aime ma femme, puis un beau jour, je vois une autre, et mon imagination, tout à coup, il y a une sorte de charme qui passe, j'aime bien sa façon d'être. Mais en une seconde, je peux tout ce que j'ai bâti avec ma femme oublier à la seconde. Je suis pris par un courant, tu comprends, chérie, avec toi, je t'aime beaucoup, mais. Avec elle, c'est pas la même chose. J'ai jamais senti cela. Le type, il transcende complètement, mais il est complètement dans un trip d'imagination. Et c'est hélas extrêmement courant. C'est de l'imagination. C'est pas une réalité. Et ça peut changer de nouveau dans l'autre sens, dans tous les sens. Mais tu n'es pas construit. Tu es un plancton dans la, dans la mer. Il y a une vague qui vient comme ci, tu vas comme ça. Elle va dans l'autre sens, tu vas dans l'autre sens. Tu n'es rien. On ne peut pas construire avec ça. On ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer, on ne peut pas créer une famille, on ne peut rien faire. Or, nous voulons construire, réaliser, réaliser bien. Or, si tu n'es rien que, excusez-moi, un animal, il va pas la pulsion. Alors, tu as des pulsions qui sont animales, tu as des pulsions chez l'homme, plus, on va dire, de qualité un peu plus grande, mais pas beaucoup plus, qui sont imaginatives. On imagine. On s'imagine maintenant, je ne sais pas, on va rentrer dans les études, tu as une prime de brillant. Quelqu'un, il imagine des choses, il se voit, et tellement de on s'imagine que quelqu'un nous en veut, on commence à le haïr, on imagine que on m'a fait du mal. Je suis outré, je suis blessé, alors qu'il n'y a rien. J'imagine qu'on me doit du kavod. Je crois au kavod. T'as une belle bagnole, alors on va, comme si t'es quelqu'un. Ce que je mets, je pourrais en parler beaucoup plus, je mets le doigt sur un point parce que 99,9% de la population est touchée par l'imagination. Et là, je dis ça une fois devant la caméra. Rambam Maïmonide, il dit que l'imagination, c'est ça ce que la Gemara appelle les démons. On parle de shedim, de démons. La Gondwila n'est pas d'accord. La Gondwila dit non, des démons, ça existe, des vrais démons, d'accord, des réalités maléfiques, spirituelles. Rambam lui dit non. Il dit les démons, c'est l'imagination. C'est des sortes de trucs ou d'idées bizarres qui viennent dans la tête et qui te font complètement virer d'un endroit à l'autre. Et j'ai dit que je pense, c'est personnel, que le mot imagination en hébreu se dit dimion. Et vu que dimion et démon, pour le Rambam, c'est la même chose, même passé en français, d'accord, démoniaque, provenant des démons, provenant de l'imagination. Dimion égale démoniaque. Imagination, c'est démoniaque.
C'est une chaîne domée qui ressemble à la réalité.
Aussi, très bien. Très juste. Dimayon, je suis médamé, mille je fais ressembler une chose à une autre, alors qu'il n'y a aucune ressemblance.
Mais des fois, on ne s'imagine pas. Là, les Arabes, ils voient bien. C'est pas une. C'est...
Oui, il y a une réalité et il y a l'imagination. Il faut savoir exactement faire la part des choses. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour faire la part des choses et m'en sortir? Utiliser ce que Dieu m'a donné, ce que Rambam appelle le saint des saints, la raison. On se calme, on arrive, mais on regarde rationnellement, sans imagination, rationnellement.
La raison, c'est le darat. La
raison, c'est sechel. Le date, c'est une fois que le sechel, il sait ce qu'il faut faire, il est capable de faire vivre à la personne. Le dat ribo, c'est l'union. L'union entre ce que ma raison me dit et moi-même. Parce que très souvent, on peut se dire, ouais, quelqu'un va aller maintenant, prenons un exemple. Tu es dans ton salon, c'est un coup que je vous fais pour avant le mariage, tranquillement, où tu entends un cri abominable qui sort de la cuisine, la voix de ta femme. Un cri strident suivi d'un spasme, que je ne sais pas si vraiment la voix de ta femme, tellement c'est quelque chose d'affreux qui vient de sortir. Tu prends rapidement ta cape de Superman, tu voles dans la cuisine, et tu vois dans la cuisine, il y a le marbre, sur le marbre, il y a un tabouret, sur le tabouret, il y a encore trois tabourets, et en haut du troisième tabouret, ta femme qui est en train de trembler comme ça, spasmodiquement. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle te montre en bas une petite araignée. Bon, il arrive, ça arrive. Chez des hommes aussi, mais chez des femmes aussi, il y a une sorte de peur irrationnelle. Bon, les hommes doivent savoir, c'est comme ça très souvent, il n'y a pas de quoi devenir faire une scène de ménage, d'accord ? C'est comme ça. Eh, c'est rien ça. Pic, tu l'enlèves, terminé. Lors d'un repas sympathique, de bonne humeur avec ta femme, un soir, quelques soirs plus tard, tu t'en parles. Comment gérer ? C'est pas tellement grave, petite araignée, elle peut rien faire, c'est juste trois pattes devant, trois pattes derrière, c'est pas. Moi j'en ai deux devant, deux derrière, j'en ai trois, c'est pas à cause de ça qu'il faut commencer à. C'est pas si grave, elle peut rien faire. Elle a bien plus peur de toi que toi t'as peur d'elle. Elle te dira oui, C'est vrai, rationnellement, je comprends. Ça, peut, ça ne me pique même pas, ça rien, c'est pas grave. Un cafard, d'accord. On ne peut rien faire au monde, le cafard. Tout ce qu'il a comme outil, le pauvre cafard, il est laid. D'accord. C'est tout. À part ça, il n'a rien. Petit cafard, elle hurle comme ça. Elle va te dire, rationnellement, tu as entièrement raison. Mais, c'est plus fort que moi. Ça provient de quoi, c'est plus fort que moi? C'est dans l'imagination. Il y a des connotations, les pattes comme ci, les cafards. Il y a des connotations très désagréables de tout ce qui est moustique. Tu as vu des films affreux, fantastiques dans sa jeunesse. Je ne sais pas, il y a des connotations imaginatives qui font rendre insupportable la vue d'une bébête pareille. Maintenant, elle pourra très bien te dire, le sahel me dit c'est rien, la raison me dit c'est rien, mais mon cœur, mon imagination, elle est là. Le da'at, c'est la capacité de unir les deux. Que le sahel va dire, ok, vu que j'ai compris qu'il n'y a rien, donc je jugule maintenant, je maîtrise mon imagination, et j'arrive à vivre devant une petite araignée, et pas
peur,
à créer.
Sa peur, elle provient d'un manque de da'at.
Ou d'un manque de sahel. S'il y a oui du sahel, d'un manque de date. Pas un manque de date, c'est ce que je dis maintenant, c'est vrai, mais arrivé, nous tous, quelqu'un, on va dire, je ne sais pas. Prenons un exemple qui nous concerne, nous. Demain, tu vas recevoir, tu as un interview dans une boîte. Très bien, très grande. Toi, tu sais que, de toute façon, c'est le marqué à l'avance. Dieu a décidé si oui ou non tu seras reçu. Alors, on va dire, tu es un mamin, tu es quelqu'un qui croit en Dieu, et tu sais que c'est déjà marqué dans le ciel, à Rosh Hashanah, on t'a fixé si oui ou non tu seras reçu dans cette boîte. Absolument, ouais, ouais. Alors tu dis, ok, alors, qu'est-ce que j'ai à stresser comme ça? Moi, je vais faire mon boulot comme il faut, je dois arriver, savoir bien répondre, à ce qu'on va bien connaître ce que je dois connaître pour ce que je suis. Si je correspond, ben ça ira, si je ne correspond pas, ben ça ira pas, et tout ce que Dieu fait, il est fait pour le bien. Ça, c'est ce que dit le Sechel. Mais c'est très dur de rester relax. Quelqu'un se marie, d'accord ? Il se peut que des fois, juste avant le mariage, un ou deux jours avant, ou quelques heures avant, il stresse. Il n'y a rien à stresser, c'est rien un mariage. Il faut dire, hâte, mais le rabbin te dit, hâte, mais coup d'échette, libre, tabat, après on te fait danser. C'est pas compliqué de se marier, d'accord ? C'est pas...
C'est après le mariage.
Pourtant, après, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Pourtant, il stresse beaucoup. Donc, chez nous tous, il y a la peur du dentiste, d'accord ? Le dentiste, ok, aujourd'hui, il fait une piqûre d'anesthésie, tu sens rien. T'as un petit bruit d'agréable, ok, c'est pas si grave. Il y en a qui sont malades une semaine avant. Il y a des gens qui sont une semaine malades, ils se peuvent pas, ont mal au ventre à l'idée d'aller chez le dentiste. Donc, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses imaginatives. Et le cercle peut me dire, c'est faux, mais je manque de date. Ça veut dire que j'arrive pas à gérer, à juguler, à amoindrir l'impact de mon imagination sur moi-même. On continue maintenant sur l'amour. Donc nous disons tout le contraire. Nous disons que l'homme, naturellement, il est né mauvais. Mauvais. Un enfant, il voit une petite voiture sympathique chez l'autre enfant, il le pousse, il prend une petite voiture. Aïr Pereyulad, comme un âne sauvage, il est né. Comme un âne, c'est Homer, du point de vue de mon corps, de mon Homer. C'est vrai que la raison, elle est droite, mais on n'a pas de raison quand on est petit. Quand Dieu dit j'ai créé l'homme droit, il parle de l'homme. L'homme, c'est à l'âge de 20 ans, d'accord, avec sa raison. La raison, elle est droite. Si tu n'as pas la tordre, elle est droite. Tu as une raison, tu as reçu une raison. Elle te permet de voir Dieu, elle te permet de savoir où est la vérité, si tu ne vas pas, pour des raisons de facilité et d'intérêt, commencer à tordre ta raison. Mais le gosse, il n'a pas de raison. Lui, il fonctionne, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça que c'est, d'accord. Un enfant, il fonctionne d'après les pulsions qu'il a. Alors, voler pour lui, il ne sait pas que ce n'est pas bien de voler. D'où il va savoir? Il voit une chose qui l'intéresse, il le prend.
Pourtant, quand ils sont petits, ils ont l'air purs.
Oui, c'est le grand Ben Israël dit comme ça. C'est un gros cadeau que Dieu a fait aux petits-enfants, qui sont très mignons. Sinon, on pourrait pas supporter. Il prend maintenant, je sais pas moi, il prend tomber un billet de 100 dollars, il déchire comme ça. C'est bisous papa, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord? Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Imaginez, une fois j'ai joué ici le jeu, imaginez quelqu'un qui a 20 ans et se comporte comme un bébé. Il rentre à la maison, il a soif, il se couche par terre, il se met à frapper par terre, comme ça. Un bon, voilà, il prend, il commence, il voit quelque chose qu'il prend, il appartient. Quelqu'un le dérange, il va l'étrangler. Très souvent, tu as des enfants, un fils aîné, et un deuxième qui est venu, il aime beaucoup le deuxième. Puis un beau jour, tu le vois en train d'étrangler, parce qu'il a chez lui des pulsions différentes. Une pulsion d'amour, une pulsion aussi de meurtre, parce que tu déranges. J'avais toute l'attention de mes parents, maintenant je dois partager. Et pas partager, parce que quand le deuxième il vient, il a 99% de l'attention. Le premier, il ne reçoit que 1%. Toujours comme ça, le nouveau qui est arrivé, on s'occupe de lui, beaucoup plus que celui-là. Donc lui, tu me déranges. Ça arrive dans beaucoup de familles, que un gosse, il tente d'étrangler. Il m'a frappé en premier, il lui rend tout ça. Enfin, c'est des sauvages. On va éduquer l'enfant. On va éduquer pour en faire quelqu'un de construit. Qui pourra comprendre qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas être jaloux, commencer à faire une crise pour n'importe quoi, qu'il faut juguler ses instincts, etc. Donc nous disons que l'homme va naître avec une nature qui est mauvaise. Et on va travailler la nature. Un point où la nature va être complètement, et je sais ce que je dis n'est pas du tout médiatique, où la nature va être complètement gérée, contrôlée, jugulée, canalisée par moi. Parce que ma nature, c'est pas moi. Ma nature, c'est mon corps. Je ne suis pas un corps. J'ai un corps. J'ai un corps. Le J apostrophe qui a un corps, c'est qui? C'est que le beaucoup plus profond. C'est moi avec mon sahel. C'est moi avec ma raison. C'est moi aussi avec mes sentiments profonds, on va en parler tout de suite. Mais ma raison devra savoir qu'est-ce qui est bon au bon moment. C'est que ma raison qui peut savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. Le sentiment ne fonctionne pas par vrai-faux. Il fonctionne par agréable ou désagréable. Donc le sentiment, il veut ce qui est agréable, il veut pas ce qui est désagréable. Essayez, tous les matins c'est la même chose. Quelqu'un met son réveil pour 7h du matin. À 7h, qu'est-ce qui se passe? Il dit dans 5 minutes. Alors, mais à 7h05, c'est schizophrénique. Entre le matin, quelqu'un est allé dormir le matin, le soir, il se levait le matin, c'est une autre personne qui se levait. Il se rebelote tous les soirs. Tous les soirs, il remet son réveil à 7h, tous les matins, 7h05. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il y a deux personnes. Moi, ma raison me dit, pour arriver à l'heure, après la prière, tout ce que je dois faire, arriver à l'heure au travail en roulant comme un type normal sur la route, je dois me lever à 7h. Quand je me lève, l'homme, il est là-haut, il y a un autre, il y a l'animal qui est là. Il pèse 10 000 tonnes pour sortir du lit le matin, surtout s'il fait froid dehors. Et il te dit, on va rester au lit. On va rester au lit. Donc il y a deux parties en moi. Une partie qui est corporelle, qui me dit reste au lit. Et une partie qui est mon vrai moi, qui est rationnel, qui me dit il faut se lever. Et tout le monde a ce débat tous les jours. Le corps, je finis juste ma phrase, le corps, il ne sait pas c'est quoi ce qui est vrai, faux. Le corps, il sait ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Lever égale désagréable, donc on reste au lit. Va, le moi, je veux dire, il faut se lever quand même. On va trouver un compromis. D'accord?
Le corporel, finalement, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Ça doit être non. Canalisé.
Exact. C'est le véhicule. Alors, on prend l'exemple suivant. C'est comme si tu as un âne et tu as un cavalier. Moi, je suis le cavalier. Le cavalier, à pied, il peut rien faire. Il peut pas avancer. Il faut monter sur la montagne, il faut un âne. Alors, je vais prendre l'âne et grâce à l'âne, je peux monter. C'est mon véhicule. Mais si maintenant je suis endormi, ce qui arrive à beaucoup de personnes, le cavalier est endormi, l'âne qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui plaît? Il gambade, il va fréquenter une ânesse, il va un peu manger des chardons, faire des courses d'âne, il fait ce qu'il veut. C'est un âne.
Quand c'est au volant, c'est plus dangereux.
Pardon?
Quand c'est au volant, c'est plus dangereux, c'est un peu la même chose pour lui.
Bien sûr, pour tout. Quand un homme se comporte d'après les pulsions naturelles qu'il a, c'est un type criminel dangereux. Dangereux, sur la route dangereux, avec ses amis dangereux, invivable. On le marie, ça tient pas longtemps, il est invivable, on peut pas vivre avec lui. Il est criseur, il est coléreux, il est jaloux, il est égoïste, il est menteur, il est filou, tout ça c'est la nature. La nature elle est comme ça. Quelqu'un va laisser sa nature faire tout ce qu'elle veut, sans que lui va gérer, dire ça on fait pas. Ah, il devient un animal terrible, bien plus dangereux. C'est un âne. Parce que c'est un être humain, il a des pouvoirs, il a une intelligence qui peut permettre d'aller beaucoup plus grave. Il peut faire une Shoah. Au nom d'une pulsion. Il n'aime pas les juifs. Il construit maintenant tout un programme politique, tout ça, pour arriver à ça. Quelqu'un qui laisse ses pulsions. Nous on dit non. Tu as des pulsions, tu les jugules. Et tu les canalises, c'est toi le boss. Maintenant, comment ça se passe pour l'amour? C'est donc ça la question. J'ai un potentiel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que si on a le recours ici, alors c'est très très malheureux. Il n'y a plus d'amour spontané. Ça n'existe plus. Je dis oui, bien sûr, l'amour. Et Dieu ordonne l'amour. C'est marqué Ahmana Libaba. Et Dieu, il veut le cœur. Dieu ne veut pas que tu fasses que ton service divin comme un robot. Ça n'intéresse personne. Un robot, c'est un robot. Dieu aurait pu créer des millions de robots qui le mettent des films tous les matins. À quoi ça sert? Dieu veut le cœur. Une femme, elle veut le cœur de son mari. Elle ne veut pas un robot. Quand on dit aimer, et la Torah est une Torah d'amour. Donc on veut l'amour vraiment, le vrai amour chaleureux, débordant. Mais géré par la tête. La tête va me dire maintenant, est-ce qu'ici il faut aimer ou il ne faut pas aimer? J'ai un petit bébé, tout mignon, heureux, heureux. On me dit, il est Amalek. Il s'appelle Adolphe. Il faut l'étrangler maintenant. Ce cas est bien sûr hypothétique. On ne connaît pas qui est Amalek aujourd'hui, on ne sait pas. C'est hypothétique, théorique dans la Torah. La Torah te dit, tu l'étrangles. Il n'a rien fait, le pauvre. Un pauvre petit bébé qui s'appelle Aro Aro. Il fait Aro Aro, il s'appelle Adolphe. Bon, Adolphe, il est tout. Il est tout gentil. Pourquoi l'étrangler? Le sentiment me dit, c'est interdit. Le sentiment me dit, mais t'es cruel, t'es complètement fou de faire une chose pareille. C'est anti-naturel, anti-humain. Un animal ne fait pas ça. Un petit enfant comme ça qui n'a rien fait à personne.
Non, mais on pourrait se dire, peut-être qu'on va l'éduquer et il ne va pas sortir comme il est.
Ok, alors le Sechel, il est géré par le super Sechel de Dieu qui me dit, non, là, il n'y a rien à faire. Une mère, il y a des mères très très miséricordieuses, très très chaleureuses, d'accord?
Le con ne passera pas sur internet.
Tu as un doute là-dessus? Tu as Adolf Hitler maintenant dans le berceau. Toi, tu sais, c'est hypothétique, théorique, tu sais, Eliaou, un avis vient devant toi, te dit, cet homme-là est Amalek. Demain, il va tuer 6 millions de juifs.
D'accord.
Tu as la mitzvah, car la mitzvah de le tuer.
14 ans. Pourquoi je vais le tuer quand il est humain?
Tu ne pourras pas, c'est maintenant ou rien. Pourquoi tu vas attendre 14 ans? À quoi ça sert?
Moi, j'ai quelque chose.
C'est maintenant ou rien, c'est maintenant.
C'est maintenant ou rien.
Moi, j'ai Rabbi qui a dit non, je ne le tue pas celui-là.
On a une conscience quand même, Rabbi.
Un mec, j'ai tué quelqu'un.
Alors, une autre conscience, c'est vrai, je prends un cas extrême, d'accord? Pour montrer comment nos sentiments peuvent aller contre la raison, et c'est la raison qui doit avoir raison. Mais dans le cas que je dis, évidemment, on n'a pas de raison qui m'explique. Je vais donner un exemple beaucoup plus simple. Une mère qui aime beaucoup ses enfants, type sfarad, chaleureux, et c'est important que ses enfants mangent bien comme il faut, et son gosse veut sa 5e glace. Et si après la 5e glace, il va être malheureux, il va pleurer, il pleure, une glace, une glace. Elle lui dit non, c'est pas une glace, bon, des heures. À la fin, elle aime son fils, elle donne une 5e glace. Chazal dit, elle est cruelle. Chazal dit, tout celui qui est miséricordieux lorsqu'il doit être cruel, à la fin, il est cruel. Et tout celui qui est cruel à la place d'être miséricordieux lorsqu'il doit être cruel, à la fin, il est miséricordieux. Tu tues Hitler, t'es miséricordieux, t'es cruel quand il faut, t'es miséricordieux avec 6 millions de juifs. Tu es miséricordieux avec ton gosse, faut lui dire non. Non et c'est non. Il pleure comme ça. Faut être cruel, des fois c'est dur, il y a des mères qui ne peuvent pas dire non à leurs enfants, il y en a qui n'y arrivent pas. Tu lui donnes une 5e glace, il va à l'hôpital avec indigestion. À la fin, t'es cruel. Et en plus, t'as pas d'excuse. Tu lui rends une mauvaise vie à toute sa vie, il sera un enfant gâté, terrible, insupportable. Donc, ce sont des exemples simples. Qui montre que je ne veux pas laisser ma nature spontanée agir. Elle doit être gérée par la tête. Mais j'ai, et c'est ça le le secret de l'histoire. J'ai en moi un potentiel d'amour extrêmement grand, comme j'ai un potentiel de cruauté extrêmement grand. J'ai cela. Nous sommes capables, c'est ça le grand chidouche, la grande nouveauté que dit la Torah, de réveiller artificiellement, de dire maintenant à la partie, mon potentiel amoureux agit. Et ce sera plus comme un robot. Que je vais ouvrir maintenant le canal, c'est comme si j'ai un potentiel dans une bombe d'amour qui est chez moi, mais qui est fermée, l'énergie atomique, fermée par un mètre de plomb. Maintenant, le sahel, la raison me dit, là il faut aimer. J'ouvre l'ouverture de plomb et j'ai un jet extraordinaire d'amour qui sort.
Pas artificiellement, pas le mot artificiellement. Non, c'est plutôt cette manière de réveiller le.
Mais je dois savoir. Qui va donner l'ordre? C'est artificiel. C'est pas le sentiment spontané qui sort. On l'a rien demandé, il sort boum. Quelqu'un t'a demandé maintenant. Tu vois une bonne femme passer dans la rue, tu tombes amoureux. Mais mon vieux, t'es un père de 6 enfants avec une femme. C'est complètement absurde. Alors tu restes dedans et tu te calmes. Terminé. Là maintenant, il va d'aimer. C'est ma femme. Celle que j'ai connue dans ma jeunesse, elle a fait beaucoup pour moi, j'ai beaucoup fait pour elle, on est une famille heureuse avec des enfants. Le sac, elle me dit, c'est là qu'il faut aimer. Je prends ce bagage d'amour que j'ai, je le dirige ici. Et je dirige de l'amour, pas du perroquisme. Chérie, je t'aime comme un perroquet. On a les capacités de diriger une bombe d'amour vers son prochain, vers Dieu, vers ses enfants. Les enfants, parlons un peu d'éducation des enfants. Les enfants ont besoin plus que tout, les êtres humains ont besoin plus que tout d'amour. Mes enfants encore plus. Un père, il aime ses enfants. Il aime, mais il est occupé. Il est occupé par je ne sais pas quoi. Ou hélas, par le journal, par la télévision, par je ne sais pas quoi. La tête doit lui dire, mon vieux, il faut que tu donnes un certain temps d'amour et d'attention à tes enfants. Et lui, de façon artificielle, il se dégage de sa télévision. Le pauvre type qui a une télévision encore, d'accord? Il se dégage de son journal, il se dégage de, je ne sais pas, de ses copains, et il donne artificiellement, il vient s'asseoir avec son gosse. Mais une fois qu'il est avec son gosse, ben il aime. Il donne de l'amour. On va dire, quelqu'un qui est froid, c'est dur pour lui. Il peut artificiellement arriver à être chaud et réveiller chez lui des océans d'amour. S'il est bloqué, il peut arriver. S'il n'est pas bloqué, il est chaud de nature. Ok, alors il prend la décision de donner maintenant une demi-heure pour ses enfants. C'est nécessaire. Donc, c'est pas que quand il a envie de voir ses enfants, maintenant ça me saoule. Quoi, maintenant ça me saoule? Ça, c'est une réaction spontanée, naturelle. Maintenant, ton gosse, il a besoin de toi. Il a besoin d'attention. Tu te lèves et tu vas et tu te donnes de l'attention. Mais cette attention, elle est artificielle? Non, elle est vraie. C'est du vrai amour qu'il donne. Simplement, c'est la tête qui a dirigé, qui a décidé quand on donne, quand on ne donne pas. Et maintenant, après une demi-heure, il faut dire au gosse, c'est fini, il faut aller dormir. Lui, non, je suis bien avec mon gosse, il passe encore 2 heures, et demain, il pourra pas se lever son gosse. Là, des fois aussi, il faut être cruel, dire on arrête. Qui va gérer ça? La tête. Donc, quand Dieu nous dit maintenant d'aimer, alors évidemment, on peut aimer que ce qu'on connaît, donc un travail de connaissance de Dieu. Comment se fait ce travail de connaissance de Dieu? Par l'étude de la Torah, on voit la beauté de la Torah. Par les efforts que je fais vers Dieu, parce que plus on fait d'efforts vers une chose, plus on va l'aimer. Par une attention très grande à tous les beaux miracles que Dieu nous fait tous les jours. Par la beauté de la nature, lire des bouquins sur la grandeur, sur la précision extraordinaire de la nature. T'as des inventions tellement extraordinaires. Lire aujourd'hui la profusion de livres de ce type-là, en tout cas en hébreu, sur les miracles, les histoires, dans les livres de Hashgacha, les livres de Providence divine. Tu vois des histoires, des gens qui racontent des témoignages authentiques, d'histoires où tu as vu la main de Dieu de façon tellement épatante, tellement extraordinaire. Quand tu lis ce genre d'histoire, ça réveille chez toi une connaissance, un amour très, très grand de Dieu. Tu vois Dieu. Absolument. Ça, c'est pour l'amour. C'est bon, ça répond à la question. Il y a plus de, peut-être j'ai oublié des points.
Non, c'est vrai que c'est plus difficile d'aimer quelque chose qu'on ne voit pas.
Il faut commencer à voir. Maintenant, tu peux voir sans les yeux de chair. Non.
Il avait demandé vraiment pas avoir
la crainte. Ah ouais, mais avant de passer à la crainte, je veux bien qu'on finisse d'abord l'amour et voir si on aura le temps. On parlera de la crainte, je vais en parler.
J'ai une question pour les enfants. C'est de l'amour qui laisse condamner, selon le canalise quand il faut.
Exactement.
Mais là, c'est carrément, il faut provoquer cette
attention. Ça dépend. T'as un père ou une mère qui est amoureuse de façon naturelle de son fils. Il y en a qui sont plus froids. Et bon, c'est un père, il aime son fils de façon normalement naturelle, mais des fois lui-même n'a pas beaucoup d'amour de ses parents, donc il a des blocages. Il doit arriver à vaincre ces blocages-là, par le sahel. C'est pas si difficile, on ne dit pas d'aimer maintenant le petit vietnamien qui est arrivé dans ton quartier, on se dit d'aimer ton fils.
Mais ça veut dire qu'en fait on aime Hachem selon qu'il y a un blocage.
Hachem c'est un peu différent, parce que Hachem, on ne connaît pas. Donc... Pour aimer, il faut connaître. Alors moi, je dis rapidement maintenant des moyens de le connaître. Mais pour connaître, il faut en parler. Il faut le voir. Comment on le voit? Alors, je vais donner un exemple qui est peut-être le plus simple, le plus rapide. Lire tout ce qui est des histoires, des belles histoires ou de tzadikim, des histoires de miracles qu'ont fait des sages d'Israël, des histoires de miracles quotidiens qu'on a vus dans les témoignages. J'ai lu le témoignage de gens qui racontent comment ils ont vu la providence divine. J'ai une chance sur... Et des très belles histoires de suite. Quand tu vois la main de Dieu, comment tu as prié pour quelque chose et puis ça a marché. Quand tu changes... Des trucs bêtes, des fois, tu changes une place de parking. Et vraiment, par un hasard extraordinaire, au bon endroit, exactement où il fallait. Tu vois des fois que tu vois une main du ciel. C'est facile d'oublier. C'est facile aussi de se rappeler et de faire cultiver cette chose-là. D'en faire tout un plat. Quand tu fais tout un plat de chaque fois que tu vois l'aide de Dieu, tu commences à développer une relation avec Dieu. Tu deviens amoureux de Dieu. Dieu veut qu'on soit amoureux de lui. Celui qui a ça, il a tout gagné. Que dit la Torah? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Croire que Dieu, il existe. Bon, et alors? Et alors? Premier ordre qui vient. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton pouvoir. Après vient un mitzvah de tefillin, d'études de Torah, tout ça, etc. Aimer. Kicholat Avani, je suis malade d'amour, on doit aimer Dieu. C'est pas si difficile si on fait attention à tout le bon que Dieu nous fait. Il y a des exemples tellement bêtes, tellement simples. Quelqu'un qui Chassé Shalom, devient aveugle. Maintenant, imagine que tu es aveugle. Imagine comment tu envies les gens qui voient. Si tu avais maintenant une heure de ta vie pour voir comment tu regarderais chaque chose avec chaque chose, essayer d'imprimer. D'imprimer les idées telles que les gens, des gens chers, du comment c'est beau un ciel bleu, comment c'est beau un coucher de soleil. Tu as une journée, on va dire. Une journée, Dieu t'a donné la vue. Nous, on l'a tous les jours. Ce cadeau extraordinaire. Tu peux en faire un plat de ça. Et ça provoque l'amour de Dieu. Quand tu vois l'histoire du peuple d'Israël, comment on est toujours là depuis 4000 ans, comment on revient en terre d'Israël, les miracles des guerres d'Israël, la guerre des six jours, la guerre du peuple, toutes ces choses-là. Il y a aussi les malheurs, hélas, d'accord. Mais tu regardes, si tu es honnête, les malheurs par rapport aux bontés de Dieu, les bontés, c'est des millions de fois plus. Des millions de fois plus. L'autre jour, j'ai pensé, regardez comme c'est beau que le ciel soit bleu. Et que les arbres soient verts. C'est un très beau mélange. Vert, ça pousse de la terre, c'est vert, c'est bleu. Le contraire, ça aurait été très, je sais pas, un ciel vert avec des arbres bleus. Je sais pas, bon, c'est très personnel, d'accord, mais arriver à faire de chaque petite chose une belle chose.
Il
faut chercher.
Oui. Ça veut dire, en fait, parce que c'est positif, alors il faut chercher ça.
Absolument. Non. Absolument. J'ai une tante qui est extrêmement amère. Extrêmement amère. La pauvre, elle a eu pas mal, elle ne s'est jamais mariée, dernièrement oui, après elle a divorcé, mais elle est amère, elle est acide, elle est... Alors un jour, elle rencontre ma fille, qui est une jeune fille de 18 ans, heureuse, bien épatante, elle commence à chercher, et ça va, et comment ça va. Et tout va bien. Alors elle lui dit, la tante, elle lui dit, je vois que chez toi, tout est en rose. Alors ma fille lui répond, celui qui voit en rose, alors tout est en rose. C'est une chose très très juste. Il suffit de voir en rose. C'est pas difficile, mais il y a un effort à faire. Ça ne viendra pas automatiquement. L'automatisme, ça c'est naturel, ça n'existe pas. Voir en rose, ça sera rose. Il y a tellement de beaux messages roses qu'on reçoit tous les jours. De Dieu. De voir d'où ils viennent. Donc, quelqu'un qui fait attention à ça, il se met à aimer. C'est impossible autrement. La crainte, on a combien de temps encore?
0 minutes.
Alors, rappelle-moi, la prochaine fois, on parlera de la crainte de Dieu. Merci. Okay.
ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוכים תהיו.